Alors Marina avait l'intention de nous parler des reflets de la mentalité komi et de leur représentation traditionnelle dans la langue. Le texte que Marina nous a envoyé était en russe, un peu de repos pour nos interprètes, parce que les chercheurs komi estoniens ont le texte en russe. Je vais vous en présenter la traduction française. Alors, Marina nous dit que toute langue vernaculaire est indissolublement liée à l'histoire, à la vision du monde, du peuple qui la parle. Elle représente son principal mode d'expression, le principal mode d'expression de ses émotions, des valeurs éthiques. En citant un auteur komi, elle dit qu'aucune autre manifestation d'ethnicité, aucune autre constante, ne peut rivaliser avec elle en perfection, en universalité, et rien ne sert aussi bien de support à tout ce qui a caractérisé le peuple concerné pendant des siècles, voire des millénaires. Et pour cette raison, il est intéressant d'examiner les phénomènes linguistiques, non pas seulement en soi, en tant que système linguistique, mais en lien étroit avec les représentations traditionnelles, avec les représentations séculaires des locuteurs. Et c'est ce point que donc Marina souhaite démontrer avec sa communication à l'aide de quelques exemples empruntés au komi et empruntés à plusieurs domaines de la langue. Et tout d'abord au système anthroponymique qui reflète les liens de parenté, qui reflète la vision de la parenté répandue dans la communauté qui parle la langue en question. Or en komi, le nom, un nom qu'on peut appeler une sorte de nom de clan, consiste en une énumération de noms d'ancêtres, dont seul le dernier est le nom de la personne elle-même. Donc, on va avoir, par exemple, Vagn, Peder, Vash, Trosh. Trophime, fils de Basile, fils de Théodore, fils de Jean. Donc, Vagn, Peder, Vash, Trosh. Et plus le nom de clan est long, plus son porteur est respecté. En effet, comme le signale Kalistra Djakov, qui fait partie de ces intellectuels à cheval entre le 19e et le 20e siècle, cet intellectuel komi qui a étudié, entre autres, son peuple, tout Syrien qui se respecte, comme tout noble russe, doit connaître ses ancêtres jusqu'à la 7e génération. Maintenant, dans la société contemporaine, et notamment dans la société rurale, le nom complet ne s'utilise que dans des circonstances particulièrement solennelles, alors que de manière générale, le nom utilisé dans la vie quotidienne va de temps en temps jusqu'à 3 noms, mais de manière générale plutôt 2 noms, nom et patronyme. Et il faut noter un fait particulièrement intéressant, qui est que cette énumération de noms d'ancêtres peut très bien contenir des noms de femmes, si le statut des femmes en question, si leur reconnaissance sociale était supérieure à celle de leur contrepartie masculine, ou bien dans le cas où les familles n'auraient pas été complètes. Autre remarque sur ce nom komi, c'est qu'il ne comprend pas de nom de famille. Il n'y a pas traditionnellement de nom de famille en komi, alors que dans un nom russe officiel, il y a un nom de famille. Elle nous rappelle que les systèmes de noms peuvent être très différents. Par exemple, en finnois, comme en français, on n'utilise pas le patronyme, alors que dans les noms turcs se trouve reflété le statut social de la personne. Alors, le domaine de l'anthroponymie était le premier. Le deuxième domaine qui va servir à illustrer un peu la vision du monde des komi, ce sont les verbes de mouvement et la vision dynamique du monde qu'ils reflètent. Les verbes de mouvement, en effet, font partie du fond lexical de base de toute langue et, dans le cas du komi, remontent à des formes de la attesté dans la proto-langue, qui exprime la perception de l'orientation et du mouvement dans l'espace. Alors, en komi, les principaux verbes de mouvement sont les verbes lokne et moni, donc veut dire aller, et qui permet de noter la direction du mouvement. Alors, par exemple, lorsque Goethe arrivait à la maison, Mun Goethe allait à la maison en venant d'ailleurs. Contrairement aux Russes, les verbes de mouvement commis ne font pas référence aux moyens de déplacement. Donc, on dira en russe, on utilisera le même verbe, Muni Poton, aller à pied, et Muni Mashinan, aller en voiture. Alors, à titre de comparaison, en exprimant l'idée de mouvement, le russe met l'accent sur le moyen de déplacement, ce que le français ne fait pas. Donc, une phrase russe, Listitsky pashol na второй étage, c'est une phrase de Cholokhov, on dira en français, Listitsky monta au premier. Et dans ce cas, la traduction commis sera beaucoup plus proche de la traduction française. Puisqu'on dira Listitsky kayas matsutao, sutao, ce qui est actualisé étant le mouvement vers le haut, et non pas le fait d'aller à pied, comme dans le russe. Il est intéressant de s'arrêter sur une couche plus récente du lexique, c'est-à-dire notamment des lexèmes exprimant des concepts abstraits, les émotions humaines. Par exemple, la notion d'amour, elle est rendue par deux mots en commis, muslun et padechen. Le premier est un mot ancien, muslun, et le deuxième est un emprunt à l'ancien russe, donc au verbe padet, qui veut dire vouloir, désirer. Donc si on regarde le premier de ces mots, muslun, il provient du mot mus, qui veut dire foi. L'organe, c'est le foie. Et ce sont des dérivés de ce terme qui vont s'employer en commis pour exprimer les émotions profondes. Par exemple, cher, bien-aimé sera Moussa. Moustum est quelqu'un qui n'est pas aimé. Moussoukashni est le verbe qui veut dire éprouver un amour réciproque spirituellement et physiquement. Le phraséologisme mousse veut dire ennuyer fortement. Donc la langue montre que pour les commis, le mot mousse, bien, c'est l'organe qui, chez l'homme, élabore l'énergie vitale, le sang. Donc on voit la différence entre la vision commis du monde qui met le foie au centre et la vision russe qui met le cœur au centre, vision française aussi d'ailleurs. En l'occurrence. Alors, un autre trait caractéristique du commis, c'est la présence de divers types de répétitions. La répétition existe dans toutes les langues. C'est l'un des principaux mécanismes de développement d'une idée. Mais elle se présente dans chaque système linguistique de manière particulièrement originale, en rapport évidemment avec la vision du monde des locuteurs de la langue en question. Donc, la répétition en tant que formule structurelle se trouve partout, mais ses fonctions peuvent changer et peuvent également évoluer. Et l'un des types les plus intéressants pour le commis sont les répétitions rimées, les doublons, les doubles mots. Rimés. Et ils existent dans toutes les langues. On trouve plus ou moins de plus ou moins fixés qui se distinguent aussi bien par leur structure phonétique que par les fonctions qu'ils remplissent. Bon, pour le français, on peut prendre l'exemple de pêle-mêle qui est construit sur ce modèle. Le kudelmudel, le kogelmogel, les œufs battus au sucre. Hein, en russe. En russe, il y a également natsia matsia ou tanse manse, donc des doublons sur le nation et sur danse. En commis permiaque, quelques exemples, que les mulem veut dire les restes. Une femme qui parle fort va se dire tchijou vijou. Et en commis donc en zirienne, une bavarde, une pipelette sera Kalyamaya, une coquette sera Chilchibichi, ou un homme grand, grand escogriffe sera Hurley Gurley. Le nombre de répétitions est en commis particulièrement élevé, et ce surtout dans la langue orale. Et quand on analyse plus de 1000 constructions faisant référence à l'être humain, on constate qu'il s'agit de termes où la dénomination s'accompagne étroitement d'éléments connotatifs. Et dans l'opposition positive-négatif, le sien et l'autre, la norme et le rejet de la norme, la majorité absolue de ces termes est connotée de manière négative. Quelles sont les caractéristiques humaines qui sont considérées comme contraires à la norme? Eh bien, quelqu'un est bavard, cancanier, fainéant, menteur, frivole, inutile, décadent, veule, passif. Et dans cette énumération, il faut relever la multiplicité des termes désignant deux notions. La notion de bavard, radoteur, fanfaron, et celle d'échevelé, hirsute, qui a les cheveux en désordre. Alors, commentaire sur ces deux caractéristiques humaines vues négativement et qui font l'objet de nombreuses expressions doubles, c'est que par nature, les commis sont plutôt laconiques. Ils estiment, à juste titre, précise Marina Fedina, que plus on parle, moins on fait, que non a schöne sin etchage uj, en commis. Et que bertemnat, que nomed osput, la parlotte ne nourrit pas. Le rude milieu de vie du Nord impose la réserve, sur le plan affectif comme sur le plan de l'expression. D'autre part, pour le deuxième type de terme, il est bien connu que dans les représentations commis traditionnelles, le trait défini par échevelé, hirsute, les cheveux en désordre, renvoie toujours à des forces étrangères à l'homme, à des forces hostiles, esprit de l'eau, esprit de la forêt, diable. Et parmi les actes désignés par une expression double, prévalent les actes qui sont en même temps, d'une part, des actes de parole, vus négativement, et des actes qui ont un effet destructeur, qui opèrent physiquement mais négativement sur un sujet. Bon, par exemple, les expressions qui veulent dire jeter un charme, mais aussi être inconstant dans ses décisions, se quereller. Donc, la désignation d'actes divergents des normes acceptées par l'usage de la parole, bavardage, chuchotement, commérage, usage du lexique vulgaire, et la désignation de l'acte lui-même par ce procédé, donc le procédé de création lexicale double, sont révélateurs. Et ce qui est en cause, ce n'est pas tant l'importance du discours pour l'homme, mais le fait que pour les commis, cette importance est particulièrement marquante à cause des possibilités concrètes d'action et d'effets indésirables de la parole sur l'homme, par l'intermédiaire de la puissance magique de la parole. Donc, d'une part, effet indésirable, d'autre part, éventuellement, protection par la parole, dans la mesure où chaque parole a du poids, chaque parole a sa matérialité. À la différence de bien d'autres peuples chrétiens, les commis considéraient et considèrent toujours l'usage de jurons comme un moyen particulièrement efficace de protection contre les forces surnaturelles, une sorte d'apotropée verbale. Et lors des travaux de terrain, par exemple, faits dans la campagne commise par l'auteur, des personnes âgées lui ont expliqué que si aujourd'hui on rencontre beaucoup plus rarement que jadis des forces surnaturelles, bien, c'est parce que les jeunes ont tendance à avoir un langage relâché et donc éloignent ces forces surnaturelles par leurs jurons. Le fait, par exemple, aussi de collecter des restes de nourriture ou bien de ramasser des objets qui ont été laissés par quelqu'un sont également des actes qui ne sont pas anodins. En effet, des restes de nourriture, les objets laissés par quelqu'un derrière lui, gardent une parcelle de la personne. Et donc, par leur intermédiaire, il est possible d'opérer directement et efficacement sur cette personne. C'est pourquoi ceux qui ramassent les choses laissées par quelqu'un sont toujours très mal vus en milieu commis. De plus, les commis étaient également très hostiles, très opposés à toute action physique sur l'homme. Par exemple, évoquons les principes d'éducation des enfants. Les enfants étaient très tôt, dans la mesure de leurs moyens, associés au travail de la famille et ils étaient traités de manière similaire aux adultes, sans gâterie particulière ou sans favoritisme particulier. Et il faut aussi mentionner l'extrême rareté en milieu commis des châtiments corporels. Il y a des proverbes qui le soulignent. Par exemple, « Cheyakst kol buren veledne lyoko nemtor on bosht » Les enfants doivent être instruits avec gentillesse, on n'obtient rien en criant ou en levant la main sur eux. Sagesse populaire. Donc, les actions visant à détruire, à abîmer quelque chose, sont vues comme l'anéantissement des résultats du travail humain, l'anéantissement d'un travail méticuleux, et comme une violence exercée contre le milieu environnant. Or, en même temps, nous savons que, pour les commis, l'environnement dans son ensemble était animé. Il était habité par de nombreux êtres dotés de raison, entre autres par des esprits. Parmi ces appellations doubles, il faut relever le phénomène bien particulier des dénominations de phénomènes surnaturels qui font partie de l'environnement. Konakoff, qui est un chercheur commis sur la vision du monde traditionnel des commis, dit que dans la vision du monde traditionnel de différents peuples du monde, existait une conception mythologique selon laquelle, à côté du monde réel sur Terre, il y avait un autre monde, situé dans un continuum spatio-temporel avec le monde quotidien, habité par une foule d'esprits de toutes sortes, et que, bon, si ces systèmes chez les différents peuples ont leurs traits propres, de manière générale, le monde des esprits était une réalité qui n'était pas moins réelle, pas moins objective que le monde des humains, et les deux mondes pouvaient s'interpénétrer. L'organisation traditionnelle de l'univers, vue par les commis, était tripartite. Il y avait le monde supérieur, celui des forces supérieures, le monde du milieu, qui est le monde des gens, et le monde d'en bas, qui est celui des forces démoniaques, de forces situées au bas de l'échelle des êtres surnaturels. Alors, pour les esprits bienveillants, pour les esprits du monde d'en haut, les termes, les désignants sont des termes neutres. Des termes comme « Olsha »,« Sushetko », »,« esprit de la maison »,« Vasa », »,« esprit de l'eau »,« Vursa », »,« esprit de la forêt ». Alors que les esprits mauvais, les esprits hostiles à l'homme, les esprits agissant délibérément contre l'homme, donc les forces d'en bas, sont désignés par, justement, ces termes doubles. Kokya Moklya, par exemple. Il s'agit d'un esprit aux fonctions un peu obscures, habitant dans les forêts, dans les huttes de chasse, qui est glosé, ce nom est glosé par les auteurs de la mythologie commi, comme un être aux grandes pattes tordues. Et la mythologie commis fait ressortir aussi d'autres noms d'esprits. Tchukla Mukla, Tchukul Mukul, un esprit tordu et borgne. c'est la signification de ces mots, ou bien Jimakya, personnage de chanson pour enfants. La mythologie tumi fait remarquer qu'il s'agit peut-être d'un emprunt au russe, puisqu'on trouve ces doubles termes en russe, par exemple, un esprit méchant dont on menaçait les enfants dans la région de Vologda est appelé Rochla Mochia, ou Rochla Mochia, de la notion de touffe de laine ou de plume. Et on trouve aussi dans, aux alentours des commis des dénominations de ce type. Virekvarek en Udmurt pour un terme désignant un diable, un démon, ou Kutikoti dans la haute Vichedda, c'est un méchant esprit qui apparaît à Noël. Kutikoti dans la haute Vichedda et Kutimuti dans la basse Vichedda. C'est le même personnage, étant joué pour les enfants mais aussi pour les adultes. Donc on a l'impression que la langue komi a peut-être été utilisée consciemment des constructions doubles pour désigner le refus de la norme, pour alerter, une sorte de signe de danger. Voilà, alors ces exemples montrent les liens entre la langue, la culture traditionnelle, la vision du monde et le mode de pensée des komi. Tout ce qui entoure l'homme, que ce soit le réel ou le non réel, se trouve reflété dans la langue, et ainsi la vision du monde linguistique de chaque peuple reflète son univers mental. Et Marina conclut en disant: j'espère avoir réussi à montrer ici une toute petite partie de la spécificité culturelle et linguistique des komi. Je la regarde moi aussi. Voilà, alors je ne me sens pas prête à répondre des questions. Merci, sur le komi, mais nous pouvons peut-être les noter pour les, si vous en avez, pour les envoyer à Marina.
Et n'hésitez pas surtout à la contacter personnellement, alors bien en russe si vous pouvez, enfin en komi. Je pense qu'en français aussi elle doit avoir la possibilité de comprendre, je crois qu'elle a des gens dans son entourage qui étudient le français.
Ou bien t'envoyer à toi les questions, tu les traduiras en komi.
Voilà. Cela dit, je pense que ça peut quand même susciter une discussion ou des remarques ou des réactions.
Est-ce que cela suscite des réactions? Oui, Jean-Luc.
Elles ne sont pas traduites, parce que pour écrire à quelqu'un,
oui.
Alors elle présente comme ça. Là, c'est elle qui a fait cette présentation, et elle se présente comme ça. Le patronyme, je ne l'ai pas en tête, je vais sur une autre page, mais justement, si je ne l'ai pas en tête, c'est parce qu'elle ne l'utilise pas du tout. Et les commis n'ont pas tellement l'habitude d'utiliser ce patronyme, en tout cas sous cette forme.
En russe,
oui.
Disons pour s'adresser... Pardon ?
On peut écrire en anglais ? Non. Enfin, pareil, peut-être qu'elle trouvera des gens pour l'aider, mais elle ne pratique pas d'anglais.
Jean-Luc, une remarque là-dessus, c'est que de manière générale, j'allais dire, les finno-ougriers inconscients de l'être... de plus en plus se présentent sans le patronyme. Certains ont repris, un peu comme cela avait été fait dans les années 20, des noms udmurtisés ou marisés. Je sais pas, par exemple, Vladimir Kozlov, un écrivain mari, écrit sous le nom de Light Shemer. L'année dernière, nous avons vu Nadia Pchelovodova qui écrit sous le nom Mouchnadi. Dans ce cas-là, ils mettent quelque chose qui équivaut au nom de famille en tête et le prénom en deuxième. Disons que Machalchi Oki. Machalchi était un pseudonyme, mais Oki était quand même l'équivalent de Akulina. Mais même ceux qui ne vont pas jusqu'à se donner un nom autochtone et qui gardent le nom comme, tel qu'il leur a été donné, leur nom d'état civil, souvent se présentent sans le nom de patronyme. Et c'est une manière de se démarquer. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Marina, qui est responsable d'un groupe de recherche finno-ougrien, qui s'adresse à des gens intéressés par la chose finno-ougrienne, ne met pas l'accent sur le patronyme. Alors que sans doute en milieu russe, ben, effectivement.
Oui, on l'appelle Marina, toujours Marina.
Oui. Ce que l'on ne fait pas en milieu russe, effectivement. Oui.
Le fait de référer de fils, ça ressemble beaucoup au système utilisé par les Scandinaves.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait une influence sur...
On peut se poser la question si l'utilisation du patronyme en russe... Non, les Portugais ont un nom de famille. Ouais. Et les Portugais utilisent les deux, le père et la mère. Oui. Oui, oui, oui. Oui, disons que dans la vie quotidienne, pas forcément. Mais effectivement, dans les signatures, dans des documents... Le principe, c'est que quand même, à chaque génération, enfin pour les noms d'usage, à chaque génération, il y en a un qui tombe. C'est souvent celui de la mère qui tombe, quand même. Mais il est quand même présent au départ. Mais moi je me suis posé la question pour le patronyme russe, de me demander si l'usage qu'ont les Russes du patronyme n'est pas lié, disons, à la pratique scandinave. Quant au finno-ougrien, je ne sais pas si ça va jusque-là. J'ai pas d'avis. Tu as un avis, Jean-Luc ? Oui.
De patronyme ou de nom de famille
C'est le nom de famille.
Le nom de famille, parce que le patronyme, c'est l'état civil.
Le patronyme, c'est le nom de votre père. Enfin,
non, ça se fait toujours.
De changer le nom de famille.
Voilà. Oui. Non, si on a un nom à consonance suédoise, c'est un moment nécessaire de porter un nom suédois, on l'a transformé en
nom de. Là, ma connaissance, non, parce que ça relève de l'administration russe, mais par contre. Il est fréquent que les gens prennent un nom d'usage. Comme on l'a vu, donc un nom à consonance commis. Enfin, fréquent, non, c'est pas fréquent, c'est quelques. Alors, des artistes.
Qu'est-ce qu'il y a des noms à consonance commis ? Donne-nous des exemples.
Des artistes ou alors des chercheurs, ça va être des chercheurs. Par exemple, Tsipanov, je sais plus quel est son nom commis, il a un nom commis avec le prénom du père et donc suivi de son prénom à lui sous forme commis. C'est un chercheur qui publie chaque année des dictionnaires de néologismes mis à jour pour que les gens puissent parler une langue commune pure, sans mots russes. Bon, il n'est pas tellement pris au sérieux et ça n'a pas un grand succès auprès du public. Mais voilà, c'est un petit peu sa démarche de rendre une langue commune purifiée au peuple commun du XXIe siècle.
Et comme ça, tu n'as pas d'exemple de nom commis d'usage aujourd'hui
Lui, mais le sien, et sinon chez les...
Je pense que le fait que tu n'aies pas en tête le sien, c'est quand même...
Oui, c'est que je l'appelle plus par son nom russe, oui. Ça fait nom d'artiste. Hein.
Alors que chez les mariés, chez les Oudmoutes... C'est pas difficile d'en trouver comme ça. C'est vrai que des chercheurs le font aussi. Vladikin signe ses poèmes en Meladi. Alexei Arzamasov signe ses poèmes Arzami Ochei. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on fasse une petite pause. Alors, à propos d'une pause d'un petit quart d'heure, à ce sujet, deux observations. La première, c'est... Je voudrais demander à tout le monde de signer le livre d'hôte qui se trouve juste à la sortie de la, de la salle. Et la deuxième remarque, c'est que vous trouverez sur la table au bout de la salle les publications de l'Association pour le développement des études finno-ougriennes, entre autres l'œuvre traduite en français d'Arklet, La guerre du Kazim. L'auteur est ici, donc je peux vous la dédicacer si vous ne l'avez pas encore, si vous la souhaitez. Mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Et je vous invite très fortement à profiter de la pause pour les regarder.